Alors, le week-end découvert du bouddhisme, cinquième module, la mort et la renaissance. On va commencer par quelques petites informations techniques. Petit rappel du micro pour ceux qui ont oublié. Petite présentation pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Donc, vous êtes le bienvenu à intervenir pendant le week-end, poser des questions, faire des remarques, etc. Mais si vous souhaitez prendre la parole, n'oubliez pas, il faut le faire absolument avec le micro. Parce que sinon, j'entends pas bien. Aussi, sinon, c'est tout simplement à cause de l'enregistrement. Comment marche ce micro? Il y a un bouton ici au milieu. Normalement, donc là, par exemple, il est en position complètement éteinte. Très simple pour l'allumer. Philippe, qu'est-ce que je fais? Bonjour Philippe, mais je t'aurais vu quand même. Parce que tu sais, regarde, il y en a d'autres au fond. Là-bas, il y a Camilla, je la vois quand même. Il y a Cécile, je le vois. Donc, qu'est-ce que je fais alors? Non, quand c'est quand la lumière est complètement éteinte, il n'y a pas de lumière, longue pression, et ça devient vert. Donc quand c'est vert, à ce moment-là, vous pouvez parler, là je suis en duo. Quand vous avez fini de parler, une simple petite pression et il devient orange, c'est-à-dire qu'il est en stand-by. Pour le rallumer, quand il y a donc lumière orange, là, une toute petite pression, et il devient vert. Si vous voulez complètement l'éteindre, une longue pression. Si la lumière devient rouge, là où vous tournez aujourd'hui et demain ou seulement aujourd'hui? José, de quoi? Il faisait un réglage. Donc vous tournez, je disais, t'es là aujourd'hui et demain ou seulement aujourd'hui? Donc aujourd'hui, exceptionnellement, je vous demande d'accueillir par vraiment un accueil très chaleureux, José qui remplace Alexis. Je veux dire plus tard. Donc Alexis qui a des occupations importantes aujourd'hui, donc il est malheureusement pas avec nous, mais on lui souhaite quand même plein de bonnes choses. Donc vous, si la lumière est rouge, aujourd'hui vous vous tournez vers José, vous lui faites passer le micro, c'est qu'il n'y a plus de batterie et il va la changer. Voilà. Donc pour le micro, c'est clair? Des questions? Donc je vous donne pas le micro parce que si vous avez eu des questions. Ensuite la caméra, je suis en forme aujourd'hui, c'est bien. La caméra, donc c'est le week-end est filmé. Donc si vous avez besoin de sortir pendant les sessions, pas de souci. Si vous pouvez juste ne pas utiliser l'allée centrale, plutôt sur les côtés. Et au moment de, si vous avez besoin de traverser le champ de la vision de la caméra, essayez de passer en dessous. Sinon, si vous pouvez pas, ben vous regardez la caméra, vous faites un grand sourire, vous demandez avant à José de faire un réglage pour que vous soyez pas flou. D'accord? Comme ça, les gens, vous avez des amis qui regarderont un petit peu le direct ou plus tard, ils vous reconnaîtront sur la vidéo. Voilà. Ensuite, au niveau, un petit peu aussi, petite annonce. Donc, au niveau de l'Institut, ils essayent d'instaurer au maximum pour soulager un peu les bénévoles, les résidents, le karma yoga, c'est-à-dire un petit peu aider aux tâches ménagères ou juste au bon fonctionnement un petit peu de l'institut. Donc sur la table, juste la petite table carrée, il y a une petite feuille orange avec les différentes activités que vous pourriez faire pour aider un petit peu les gens ici. Donc entre autres, débarrasser après le déjeuner. Excusez-moi, maintenant je vis en Suisse, alors il faut que je fasse un effort surhumain. Ça vous semble tout bête, hein, le déjeuner? Ben non, le déjeuner, moi, j'ai déjà pris. Au déjeuner, pour moi, c'est le dîner maintenant. Et puis le dîner, c'est le souper pour moi. Donc, pour le déjeuner, pour vous, faire la vaisselle, etc., débarrasser. Donc, vous pouvez vous inscrire sur la feuille, puis aller aider les gens, puis voir un petit peu les autres tâches à faire. Donc, voilà un petit peu pour la présentation. Petit changement par rapport, je crois, au week-end dernier de la découverte du bouddhisme. Oui, puisque c'était mars, début mars. Le déjeuner est servi à 1h. Il est plus servi à midi et quart. Donc, changement par rapport à la dernière fois. Puis donc, les horaires, 10h midi, 15h, 17h aujourd'hui et demain. Voilà. Donc on va passer maintenant un peu plus à une préparation spirituelle pour le week-end, entre guillemets. Et on va commencer par la méditation sur, Philippe, le souffle. Bien. Bien, je te mettrai 5 points en plus sur le prochain devoir. La méditation sur le souffle. Donc beaucoup d'entre vous, vous êtes experts. Vous pouvez directement entamer cette méditation. Pour au cas où il y a des personnes qui ne connaîtraient pas méditation, une technique toute simple, vous concentrez sur le point à l'entrée des narines. Okay, et tout simplement, vous observez les sensations que vous éprouvez lors de l'inspiration et de l'expiration. Donc, vous portez votre attention ici, vous inspirez, vous expirez naturellement, normalement, sans forcer, et vous observez la sensation que vous éprouvez à ce point-là. Très certainement, vous allez penser peut-être à autre chose, vous allez être un petit peu distrait, etc. Essayez de prendre conscience de cette distraction et de ramener votre concentration sur les sensations, sur le point d'entrée des narines. C'est clair pour tout le monde ? Oui ? On essaye pour 1h30, parce que j'ai pas grand-chose à dire aujourd'hui. Non, 10 minutes, c'est parti. maintenant, on essaie de générer la pensée bienveillante qui souhaite que tous les êtres, sans la moindre exception, puissent obtenir le bonheur, développer les attitudes de vie qui mènent à ce bonheur, des attitudes d'éthique, de sagesse, et que tous les êtres, sans la moindre exception, puissent aussi être libres de la souffrance, des causes de souffrance, justement le manque d'éthique de respect à l'égard des autres, les attitudes d'attachement, d'aversion, d'ignorance, égoïste. Donc, puissent-ils tous obtenir le bonheur, les causes du bonheur, être libres de la souffrance et des causes de la souffrance. On essaye de s'imprégner de cette attitude pendant 5 bonnes minutes. Et on va prendre le livre de prière à la page 73. Pour la louange au Bouddha Shakyamuni, donc vous êtes les bienvenus de réciter ces louanges avec moi en français. Si cela ne vous tente pas, détendez-vous, regardez par la fenêtre les petits oiseaux, le ciel bleu entre les nuages. Donc la louange au Bouddha Shakyamuni, page 73. Vous y êtes ? C'est bon ? Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux de tous les hommes, à vous Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous Bouddha Bhagavan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous Bouddha Bhagavan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé, je suis suprême en ce monde. À vous, sage en ces temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à l'une immaculée, et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aussi vaste que l'océan, à vous, ainsi allé, je rends hommage. Par la pureté, le délivre de l'attachement. Par la vertu, le libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libéré et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, champ pur doté de réalisation. À vous, assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du dharma, hommage à la noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes digne de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ses mérites, puissent tous les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi des défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Et à la page 79, le sutra du cœur. Hommage à l'Arya triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajakriya, sur le pic des vautours, entouré d'une grande agrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le Bodhisattva Mahasattva Aryabhalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au Bodhisattva Mahasattva Aryabhalokiteshvara. Les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment vont-ils s'y prendre ? Le Bodhisattva Mahasattva Aryabhalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadviputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni cessation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience. Ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental. Ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voix. Il n'y a ni sagesse, ni obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se font-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra à la perfection de la sagesse. Tayata, gate gate, paragate, parasangate bodhisattva. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva mahasattva Aryavalokiteshvara en disant « Bien, bien, fils de lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. » C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse et Tathagata eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Shariputra, le Bodhisattva Mahasattva Aryavalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des Asuras, des Gandharvas, furent remplir de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Et au milieu de la page 82, la prière à la Dakini au visage de lion. Je me prosterne devant l'assemblée des Dakini des trois chakras qui demeurent dans le yuga sacré de la jouissance de ce passe. Par vos pouvoirs de clairvoyance et d'émanation magique, prenez soin des pratiquants comme une mère prend soin de son enfant. Akasamara Tsachadara Samaya Père. Akasama shada samaya pe tayata gate gate paragate parasangate bodhisattva. Par les enseignements des trois joyaux suprêmes dotés du pouvoir de la vérité, que les obstacles intérieurs et extérieurs soient transformés, qu'ils soient chassés, qu'ils soient apaisés, que toutes les forces négatives contraires au dharma soient complètement pacifiées. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipée, puissions-nous être séparés des problèmes et situations néfastes au dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le dharma, puisse le bonheur parfait, tout ce qui est de bon augure, et ici et maintenant. Et à la page 89, la prière de refuge, qu'on récite en tibétain.
Mmh. dans la benje zangye do ba jo za enge enje dan zage je nam la jen jo ba do dan ye ge zu shi da ge chen ye enge be zan angi dans la benje zangye do ba jo za enge enje dan zage je nam la jen jo ba do dan ye ge zu shi Nagi jen yengi beze nangi, dola benje zangye doba jo.
Alors, après, n'oubliez pas ceux qui m'ont remis des devoirs, par exemple après la fin de cette session, de venir me voir pour que je vous les remette. Donc, comme la dernière fois, j'avais oublié le dossier à la maison. Il y a, par exemple, Jean-Marc, j'en ai en retard à te rendre, etc. Donc, pensez si vous n'en avez pas donné il y a longtemps que je ne vous ai pas rendu. Et venez me voir, Gisèle, j'ai une pochette vide à te rendre. Donc, n'oubliez pas de venir chercher vos devoirs. Si vous avez fait les devoirs pour cette fois-ci, ben, apportez-les-moi avec grand plaisir, je les lirai. Romain, toi, tu viendras en dernier, parce que comme tu m'avais donné un grand devoir, pour qu'on le parcourt ensemble, ça va prendre du temps. Donc si tu passes en premier, les autres ils vont devoir attendre. Après, il y a donc la feuille aussi, là, à l'entrée, sur la table, à l'intérieur de la Gompa, par rapport aux lectures demandé pour le module, pour les gens qui voudraient donc sous forme papier, inscrivez votre nom. Je vous rappelle toujours, c'est 8 € de participation pour sous la forme papier. Après, vous pouvez l'obtenir sous forme digitale en écrivant à Françoise Majesté. Ensuite, je vais passer en revue un petit peu la bibliographie du week-end ce matin. Comme ça, si vous voulez aller trouver votre bonheur à la boutique, parce que vous ne le trouverez pas ici, votre bonheur, donc vous le trouverez peut-être à la boutique. Comme ça, vous pourriez y aller dès aujourd'hui, pas tous vous ruer dimanche après-midi à 3h moins le quart, et puis comme ça, Clotilde, si vous allez tous à 3h moins le quart demain, elle va devenir folle. Donc là, vous pourrez étaler vos visites là-bas. Donc au niveau bibliographie, donc si vous prenez dans votre pochette violette la fiche qui s'appelle « Découverte du bouddhisme », fiche de participation module, celui-là, celle-là, vous voyez, donc il y a toujours les lectures facultatives recommandées. Alors, ben, il y a toujours le bon vieux Lamrim, « La voie vers l'éveil », très pratique pour voyager, parce que comme il est très répandu, par exemple moi je laisse le mien à la maison, puis j'arrive ici, je passe à la bibliothèque en récupérer un exemplaire, donc je voyage plus léger comme ça. Donc là, le sujet du week-end, eh bien, il se trouve au chapitre 8 et au chapitre 15, mais ça on verra un petit peu dans le détail quand on va commencer un petit peu à explorer. Ensuite, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, il a perdu la tête. Je vous recommande ce livre. Donc, j'ai voyagé léger, j'ai pris un exemplaire à la bibliothèque, mais c'est en anglais. Donc, il s'appelle Mort, état intermédiaire et renaissance dans le bouddhisme tibétain. Livre écrit par Lati Rinpoche et Jeffrey Hopkins, avec une préface du Dalai aux éditions, il me semble, Dharma. Éditions du Dharma. Donc, il n'est pas à la boutique. Donc vous pouvez le commander à la boutique, vous pouvez aller voir Clotilde et puis lui demander, ou alors vous regardez tout simplement sur internet. Ce livre est en fait un texte écrit par un vieux érudit tibétain de je ne sais plus quel siècle, et commenté donc par ce lama contemporain qui s'appelait Lati Rinpoche, qui est décédé il y a quelques années de ça, et qui explique vraiment le point de vue bouddhiste du processus de la mort, de l'état intermédiaire entre une hypothétique mort et renaissance. Il y a un petit peu le processus de renaissance et du développement essentiellement du fœtus. D'accord ? Donc si vous êtes intéressé par ça, allez pianoter sur internet, sur ce que vous voulez, eBay si vous voulez, Amazon, etc., etc., etc. Je suis sûr que vous pourrez le trouver. Donc il n'a pas la même couverture. Ensuite, aux éditions Vajrayogini. Là, c'est un livre, donc, Kyabje Pabongkar Rinpoche, La cuillère du cœur. C'est un livre, je pense, extrêmement utile si on veut un petit peu entreprendre régulièrement des réflexions, des méditations sur le fait que la mort soit certaine et donc tirer au maximum profit de l'opportunité qui nous est donnée sous cette forme humaine. Là, ça peut être quelque chose, donc un petit support extrêmement intéressant. Donc là, vous le trouvez au magasin pour le prix de 4,40 €. Je crois que je vais me reconvertir dans... Ensuite, je continue vraiment par rapport au sujet. Alors là, attendez, il faut que je regarde mes notes. Parce qu'il y a deux livres qui sont très proches, qui se ressemblent. Alors, ces deux livres aux éditions Vajrayogini, Conseil du cœur pour la mort et la fin de vie, Une peur salutaire, comment transformer notre appréhension face à l'impermanence et à la mort. Donc là, vous pouvez vous dire lequel choisir, hein. C'est une bonne question. Donc pour les gens qui veulent avoir un petit peu un regard global sur le point de vue bouddhiste de la mort, comment gérer la mort, etc., gérer les peurs par rapport à la mort, donc un petit peu l'ouvrage pour le grand public, c'est Une peur salutaire. Petit moyen mémotechnique pour pas vous tromper, vous prenez le lotus ouvert. L'autre, le lotus, il est fermé, d'accord ? Donc le lotus ouvert. Celui-là, c'est vraiment grand public. L'autre, en fait, il y a plus des pratiques vraiment spécifiques, bouddhistes à l'intérieur, etc. C'est donc Conseil du cœur pour la mort et la fin de vie. Donc moi, ce que je vous conseille pour grand public, celui-là, vraiment plus spécialisé, le lotus fermé. Les deux sont de Lamazopa Rinpoche. D'accord. Donc, petit récapitulatif. Pour le grand public, c'est lequel ? Le lotus ouvert, voilà. Et pour les spécialistes, voilà, c'est très bien. Donc vous voyez, là, il y a le bouton de la fleur du lotus qui est complètement fermé. Donc les spécialistes, pour le grand public, c'est ça. J'espère que je ne me suis pas trompé. Sinon, donc après, vous pouvez vérifier avec Clotilde. Ensuite, Tome 1 sur 5. Là, c'est pour vous décourager. Donc là, c'est en fait un commentaire du Lamrim, du très gros Lamrim de l'Amazon Kappa, donné par un érudit. Donc pour ceux qui seraient intéressés de vraiment approfondir les différents points, beaucoup plus accessible ce gros Lamrim. Si vraiment vous voulez rentrer en plus de détails, etc., il y a donc le premier volume des 5 qui vont devoir paraître. Et entre autres, ben, il y a des explications détaillées sur les méditations là, qu'on va faire sur la mort, sur le processus de la mort, etc. Vous trouvez un petit peu de choses aussi là-dedans. Donc là, c'était juste vous mentionner ça comme ça au passage. Ensuite, vous voyez sur les lectures facultatives conseillées, vous voyez l'enfant lama. Ça, c'est parce que donc quand j'ai fait la liste, je suis allé voir Françoise, à qui il fournit un travail incroyable. Mais comme dit sa fille Sandrine, qui était donc l'ancienne boutiquaire, on dit boutiquaire à la boutique, chargée de la boutique, responsable de la boutique, Sandrine, qui maintenant est à la direction des éditions, elle a dit ma maman, elle est pas très à la page. L'enfant lama n'est plus épuisé, n'est plus édité. Donc il paraît que c'est un très beau livre, donc peut-être vous pouvez le trouver d'occasion. Voilà. Puis après, il y a les best-sellers, et comme c'est des best-sellers, j'ai pas besoin de faire trop de publicité pour eux. Donc, au niveau de la bibliographie, voilà ce que je vous proposais. Donc, juste, non, je mentionne quand même au passage, peut-être, il y a un livre qui souvent est assez inspirant pour les gens, c'est le livre tibétain de la vie et de la mort de Sogyal Rinpoche. Donc, pour un petit peu les aspects techniques de la découverte du bouddhisme, voilà, on va passer vraiment donc au vif du sujet. Et on va faire un petit récapitulatif pour se mettre dans le bain. Jean-Marc, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche le malheur. Ouais, donc en fait, il s'est repris, il a dit non, on recherche le bonheur. Et en fait, là, c'est le résumé complet de notre situation. On recherche le malheur parce qu'on fait tout et n'importe quoi. Et très souvent, nos attitudes sont cause de problèmes. Mais en essence, on aspire tous à une même et unique chose, le bonheur. Donc, première constatation, c'est que est-ce qu'on a une vision claire de ce qu'est le bonheur ? Si on prend du recul, très certainement pas. Donc, on veut le bonheur, on ne sait pas forcément trop ce qu'est le bonheur, et au bout du compte, est-ce qu'on est exaucé ? Non. Il y en a qui rigolent, donc ils ont l'air, oui. Est-ce qu'on est exaucé ? Pas vraiment. Tout simplement parce qu'il y a une réalité, c'est qu'on est confronté à beaucoup d'expériences de souffrance. Donc comme le sujet du week-end, c'est la mort, heureusement il y a la renaissance après, c'est assez déprimant, je vais pas en rajouter sur la souffrance, parce que là sinon ça va être foutu, comme dirait ma femme, c'est foutu, tout est tout foutu. Donc il y a des expériences douloureuses, entre autres, là je peux vous dire, des souffrances liées à la mort. On veut le bonheur, mais on est confronté à ces souffrances. Après, dans notre vie de tous les jours, en fait, ce qu'on considère comme être le bonheur, c'est quoi ? Ça va être des expériences plaisantes. Et la plupart d'entre nous, qu'est-ce qu'on fait ? On recherche le bonheur dans ces expériences plaisantes. Mais Romain, là, il a eu un petit moment. Donc, je te prépare psychologiquement. Je vais te poser une question. Romain, est-ce que ces sensations plaisantes, c'est vraiment du bonheur ? Donc, il nous dit temporaire. Donc, où est le micro ? Parce que je vais continuer à t'interroger, t'inquiète pas. Petite pression. Là, j'ai mis la pression. Il sait même plus
temporaire.
Comment allumer le poids. Temporaire, mais qu'est-ce que ça veut dire, temporaire ? Est-ce que c'est du vrai bonheur ?
Qui ne dure pas.
Ah. Bah, c'est pas du vrai bonheur, alors, si ça dure pas.
Non, c'est... ça devient une souffrance.
Donc j'ai oublié de vous dire au niveau du micro, parce que j'étais hier pendant les essais entre José et Alexis, il faut que vous mangiez le micro quand vous parliez, pour que bien on vous entende. Donc devant la bouche, qu'est-ce que t'as dit ? Et ton papa et ta maman, ils sont là ?
Ça devient le bonheur pour nous. C'est ça va être temporaire. Mmh. Après, ça se transforme en douleur, en souffrance.
En douleur ou en souffrance, douleur, ouais.
Et on continue toujours à aller à chercher ce bonheur futile qu'on croit être du vrai bonheur.
Donc ce bonheur futile. On prend un exemple tout bête. Quoi ?
Des achats de chaussures, de belles chaussures qui coûtent cher, qui sont à la mode, et puis on va les essayer.
Donc là, c'est neutre, parce qu'il y a les chaussures pour hommes, pour femmes, donc là, chacun peut s'y retrouver.
Voilà.
Donc des belles chaussures.
On va les essayer ou on va les acheter sur Internet. Elles vont nous faire mal aux pieds.
Donc déjà, on a tout faux dès le début, quoi.
Voilà.
Donc on prend un autre exemple, alors.
Elles vont s'user, elles vont plus être à la mode, et de nouveau, on va les regretter, on va remettre de l'argent dedans. On va travailler, on va dépenser de l'argent et on va se retrouver avec une vieille paire de chaussures qu'on aimait.
Au compte, on se retrouve avec 50 vieilles paires de chaussures.
Voilà, mais ça, c'est au début.
Ouais.
Parce qu'après, on cumule donc nos erreurs qu'on peut voir matériellement. C'est qu'on fait des achats compulsifs. Parce qu'on est dans un cycle d'achat compulsif. On regarde à la télé.
Donc là, on va vraiment étudier ce cas-là.
Oui.
Acheter des choses qu'on aime.
Voilà.
Si c'était vraiment du bonheur, le bouddhisme dit, en fait, ça ne pourrait, l'expérience qu'on fait de ce bonheur ne devrait pas dégénérer tant qu'on est dans cette activité, cette action, cette expérience. D'accord ? Donc, acheter des choses plaisantes. On devrait toujours être heureux. Donc, moi, c'est vite vu parce que faire les courses, ça va 5 minutes, mais après. Donc, si vraiment c'était du bonheur, tant qu'on serait en train de faire des courses, d'acheter, belles choses, etc., on serait heureux. Okay. Donc, il y a des gens qui ont de l'endurance. Je ne vais pas faire de distinction de genre entre femmes et hommes. Mais... Donc, il y a des gens qui aiment bien acheter. Alors, je pense qu'il y a des hommes qui sont beaucoup plus d'endurance que les femmes. Hein. Et donc, acheter des belles choses. Donc, si vraiment c'était une expérience, c'était du bonheur, tant qu'on serait en train d'acheter, on devrait être heureux. Donc, aller acheter des choses pendant 20 heures d'affilée. Là, je suis extrémiste aujourd'hui. Hein. Il devrait y avoir toujours une expérience de bonheur. Là, je reprends un peu le temps parce que c'est pour beaucoup d'entre vous, au niveau intellectuel, c'est peut-être clair, mais je pense que pour beaucoup d'entre nous, en pratique, où est-ce qu'on va chercher le bonheur ? Le vrai bonheur, ce qu'on pense être le vrai bonheur, toujours et encore dans ces expériences-là. D'accord ? Donc, être très clair que, effectivement, ces expériences, elles sont plaisantes, mais elles n'ont pas une nature véritable de bonheur. Pourquoi ? Parce que automatiquement, cette expérience va dégénérer en quelque chose de douloureux. Or, si sa nature véritable était du bonheur, elle ne pourrait pas dégénérer tant qu'on serait dans ce mode de fonctionnement. Vous êtes d'accord ou pas ? Là, ceux qui viennent régulièrement, on a encore et encore fait un petit peu le tour de la question. Mais c'est bien d'y revenir, de méditer dessus. Donc on a développé une certaine conviction, mais vraiment d'intégrer complètement cette conviction en nous pour aller chercher le bonheur autre part. Et en fait, le Bouddha est allé beaucoup plus loin. Il a dit, donc on aspire au bonheur. Malheureusement, donc on est confronté à des expériences douloureuses qui sont parfois, entre autres, liées avec la mort. On aspire au bonheur, mais en fait, dans cette vie, on se contente juste de moments agréables, plaisants, passagers, qui automatiquement vont dégénérer, ne sont pas un véritable bonheur. Et il allait donc encore un petit peu plus loin. Quand il a regardé un petit peu comment on était composé, qu'est-ce qu'il a dit, le Bouddha ? Qu'on était dans une souffrance omniprésente, mais Myriam développe avec le micro. Qu'est-ce que ça veut dire une souffrance omnipénétrante, omniprésente ?
Nous constituons, c'est-à-dire notre corps et notre esprit, donc nos agrégats, sont constitués sous la base de l'ignorance qui, et donc, qui nous font voir la réalité différente de ce qu'elle est réellement. Et c'est cette ignorance qui sert de base à la souffrance, de la souffrance, la souffrance du changement. Et donc, on est, nos constituants sont les supports pour expérimenter la souffrance. Donc, quoi que l'on fasse, tant qu'on est dans cette configuration, on éprouvera de la souffrance.
Et on éprouvera des sensations qui ne sont pas un vrai pur bonheur. D'accord. Et donc, pour simplifier un petit peu, donc ce que nous a dit Myriam là est très très juste, bien détaillé. Et pour simplifier, on pourrait dire tant qu'en fait ce qu'on est a été généré sur la base de l'ignorance, cette ignorance va voiler l'essence de ce que nous sommes. Et c'est dans cette essence associée à la sagesse qu'il y a vraiment bonheur. Donc, tant que on est le développement de l'ignorance, on peut pas parler vrai, pur bonheur. Tant qu'il y aura l'ignorance, automatiquement, on va se retrouver dans... On est dans un potentiel de souffrance flagrante. On est dans un état où on ne peut pas expérimenter le vrai, pur bonheur. D'accord ? Donc, pourquoi, en fait, naturellement, on aspire au bonheur et on doit être confronté à ces situations douloureuses ? Pourquoi, en fait, on ne peut se contenter que de ces situations passagères ? Expérience passagère, temporaire, de bien-être. Pourquoi, en fait, on ne peut pas expérimenter ici et maintenant le vrai pur bonheur ? Donc Myriam a apporté énormément de réponses, mais on va reprendre un petit peu dans le détail. Pourquoi, d'un point de vue bouddhiste, je suis confronté à des expériences douloureuses ? Qu'est-ce qui cause ça spécifiquement ? Arnaud, est-ce que tu as une idée ? Pas d'idée ? Tu veux utiliser ton joker ? Ouais ? Hein ? Appelle un ami ? Ah, je regarde pas assez les jeux télévisés pour... Il y a l'appel à un ami maintenant. Ah, alors, quel ami appelles-tu ? Là, ah si, j'ai vu dans la télé suisse-allemande, je comprends rien parce qu'ils parlent tout que allemand, mais suisse-allemand, mais il y en a plein qui se lèvent là, et puis qui crient, et puis moi. Alors, qui veut être l'ami d'Arnaud, là ? Il fait appel à un ami. Hein ? Maintenant, elle est au marché. Oui, mais au marché, là. T'as vu, je sais déjà. Hein. Je suis bien informé. Donc, quelle est la cause des expériences douloureuses qu'on fait d'un point de vue bouddhiste ? Myriam nous dit les perturbations. Là, c'est vraiment, on va un petit peu trop dans le processus est pas assez spécifique. Parce que, par exemple, je peux faire l'expérience d'une sensation agréable, et d'un point de vue bouddhiste, on va dire que la cause peut être construite quand même sur une perturbation mentale. L'attachement. Donc, perturbation mentale, attachement, c'est le même combat. Kif-kif burrico. L'ignorance. Perturbation, ignorance, kif-kif burrico. Nos actions. Gary. C'est ça, Gary? Gary. Oh, je prononce trop le A à l'anglaise maintenant. Gary. Donc, tu dis les actions. Quel type d'action? Les actions négatives. Passé. Donc, d'un point de vue scientifique, si quelque chose est composé, ça veut dire quoi? Qu'il dépend d'une cause. D'un point de vue bouddhiste, on regarde, on fait des expériences. Ces expériences, elles dépendent d'une multitude de différents paramètres. Vous êtes d'accord? Donc, elles sont composées. Donc, elles dépendent d'une cause. La cause doit, vous vous rappelez, précéder toujours son résultat, partager la même continuité et avoir la même nature. Donc d'un point de vue bouddhiste, on dit tout simplement les expériences que l'on vit, agréables ou désagréables, ne sont que le résultat d'actions passées, entre guillemets, que nous avons accomplies. Une expérience désagréable est le résultat d'actions négatives, c'est-à-dire d'actions motivées par une attitude intérieure négative qui nuit à l'autre. Nous avons nuit à l'autre. Cette action fait partie d'un processus naturel qui amène un résultat. Quel est ce résultat? Les expériences douloureuses. Okay. Quel est, donc après, on réfléchit un petit peu, toujours sur le même sujet, la cause spécifique des expériences plaisantes que l'on fait, qui ne sont pas du vrai bonheur, qui dégénèrent? Gary. Quelle est la cause spécifique des expériences plaisantes que l'on fait dans notre vie de tous les jours? Bon, donc je précise ces actions, ces expériences agréées. Nos actions positives. Ouais. Donc, ces expériences, je précise, ces expériences agréables, elles dégénèrent, elles ne sont pas du vrai pur bonheur. Mais, donc, elles font partie de ce processus, cause et effet. Quelle est la cause spécifique de nos expériences agréables d'un point de vue bouddhiste? Les actions passé, positif, c'est-à-dire des actions générées sur une attitude intérieure qui respecte l'autre, et des actions donc qui ne nuisent pas à autrui, même parfois qui peuvent lui être bénéfiques. Pourquoi, en fait, on ne peut pas expérimenter? Donc là, on voit pourquoi on souffre. Tout simplement parce que les causes ont été créées. Quelles sont ces causes? Des actions passées, donc qui ont nui à autrui. Pourquoi on peut éprouver un certain bonheur passager de temps en temps, parce qu'on a créé les causes. Quelles sont ces causes? Des actions passées positives. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas expérimenter un vrai pur bonheur ici et maintenant? Donc là, en fait, avant, vous m'avez répondu. Bon, allez le micro. Allez, Gisèle.
Parce qu'on les fait sur la base de l'ignorance.
Parce qu'en fait, on est dans un fonctionnement qui est construit complètement sur l'ignorance, sur la base de l'ignorance. Donc là, on regarde, on fait tout un ensemble d'expériences, désagréables, agréables, neutres. Pourquoi on fait ces expériences? Parce qu'on en a créé les causes. Quelles sont les causes d'expériences de souffrance, des actions passées négatives, les expériences plaisantes passagères, les actions positives? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas éprouver du vrai pur bonheur? Parce que nos constituants sont issus, sont l'expression de l'ignorance, de l'attachement, de l'aversion, de l'orgueil, de la jalousie. Et regardez tout simplement comment, très souvent, nous autres êtres humains, nous sommes animés par ces attitudes d'ignorance, donc qui se méprend complètement sur comment les choses existent, d'attachement, attitude extrêmement égoïste. Je regarde quelque chose, une personne, etc., avec un caractère plaisant, j'exagère les qualités de l'objet, et je veux vraiment cet objet, cette personne, pour moi-même. L'aversion qui est donc le processus similaire, mais juste on est concentré sur quelque chose de déplaisant, on exagère les fautes, on veut nuire. Regardez comment toutes ces actions, ces attitudes intérieures nous poussent à agir et en fait à rentrer par exemple dans un mode de fonctionnement extrêmement dualiste, extrêmement conflictuel avec les autres, et comment ça entraîne énormément de frustration, énormément de souffrance. Regardez comment, si on peut prendre un petit peu n'importe quel problème actuel, okay, si on regarde la source, on va pouvoir, d'un point de vue bouddhiste, toujours montrer du doigt qu'au niveau de la source, dans le développement de ce problème, qu'est-ce qu'on va trouver ? Donc, Olivier, tu nous dis l'ignorance, la saisie dualiste, et on pourrait donc après dire les autres attitudes négatives qui se développent par rapport à ça, l'attachement, l'aversion, l'avidité, l'orgueil, la jalousie, l'avarice, etc. Regardez, par exemple, au niveau les grands économistes, ils s'accordent tous à dire pourquoi il y a de tels problèmes économiques. Il y en a qui prennent plus que d'autres, dû à l'avidité d'un très petit groupe, okay, qui veulent toujours plus, qui ont déjà des millions, mais ils veulent encore plus. Tous les problèmes, tous les conflits, ils apparaissent en dépendance de quoi ? Soit d'une attitude égoïste d'attachement, qui veut pour lui en dépendre de l'autre, soit une attitude d'aversion agressive à l'égard de l'autre. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Donc, d'un point de vue bouddhiste, tout simplement, la cause véritable du problème, elle est là. Donc, d'un point de vue bouddhiste, en fait, la cause véritable du problème, elle est extérieure ou intérieure ? Les deux, mon capitaine. L'extérieur, d'un point de vue bouddhiste, n'est que le reflet de l'intérieur. Donc, au niveau individuel, la solution, le problématique est intérieur et la solution va se trouver à l'intérieur. Donc, dans le premier module de la découverte du bouddhisme, qu'est-ce qu'on avait regardé ? Qu'est-ce qui est là pour la première fois ? Attendez, qu'est-ce qui est là pour la première fois ? Donc, monsieur, qu'est-ce qu'on a vu au premier module ? Je perds la tête. Donc au premier module, effectivement, on a vu l'esprit et son potentiel. Et on a regardé un petit peu, entre autres, que ici et maintenant, on avait ce qu'on appelle une précieuse renaissance humaine. Qu'est-ce que c'est qu'une précieuse renaissance humaine ? C'est une renaissance humaine qui comporte 8 libertés et 10 attributs. On ne va pas rentrer dans le détail. Mais en gros, avec ce que nous sommes ici et maintenant, avec cette existence, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ben, on peut faire plein de choses, et entre autres, on peut se divertir, on peut découvrir plein de choses nouvelles, etc., etc. Et il y a Gisèle quand même qui veut un petit peu me recadrer, qui dit « dont le dharma ». Donc en fait, tout simplement, d'une manière générale, on regarde quelle est l'activité la plus commune au niveau être humain, comment est-ce qu'on utilise notre vie. Et Olivier nous dit, on se divertit. Avant de se divertir, on travaille. Donc, première chose, ben, on essaie de subvenir à nos besoins. Donc après, le problème, c'est qu'on n'est pas clair sur quels sont nos besoins. Okay ? Et d'une manière générale, en fait, on vit notre vie d'une manière avec un regard extrêmement limité, juste ici et maintenant. Donc, bien sûr, assouvir mes besoins les plus primaires, mais après, en fait, une recherche d'un bonheur extrêmement limité d'ici et maintenant. Et on a, d'une certaine manière, d'un point de vue bouddhiste, un comportement extrêmement futile, bête, parce qu'on a un potentiel incroyable, mais on n'utilise, en fait, pas du tout ce potentiel. Quel potentiel on a en tant qu'être humain ? Avec, donc, ses intérêts, par exemple, pour les choses un petit peu spirituelles, avec des libertés d'expression, etc. Quel potentiel on a ? Qu'est-ce qu'on peut faire de notre vie ? On peut se transformer. De toutes les façons qu'on se transforme, hein. On va voir, on se transforme dans un bon sens. Transformer son esprit. Donc naturellement, mon esprit se transforme. Instant après instant, là je vous taquine, je fais l'avocat du diable. Avec le micro, là, prenez en duo, vous le faites passer là, comme ça.
Non, mais on peut avoir la maîtrise de son, apprendre à avoir la maîtrise de son esprit et orienter sa vie pour qu'elle ait un sens, qu'elle soit profitable pour les autres et puis pour...
un sens, donc donner un sens à notre vie, qu'elle soit profitable. Qu'est-ce qui est profitable véritablement ?
En fait, c'est d'arriver à avoir des comportements qui génèrent... du bien-être pour soi-même et pour les autres, et puis
Donc quand tu dis du bien-être pour soi-même, pour les autres, est-ce que tu peux préciser?
En fait, de générer des comportements qui soient source de bonheur, c'est-à-dire qui permettent à chacun aussi de progresser et de progresser.
Donc, on récapitule. À quoi on aspire? Au bonheur. Donc, première chose, en fait, cette opportunité qui nous est donnée, cette renaissance, en fait, elle peut être utilisée pour essayer de comprendre ce qu'est véritablement le bonheur. D'une. Okay. Donc, on aspire au bonheur, mais là, on va vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui est véritablement le bonheur, qu'est-ce qui ne l'est pas. Okay. Parce que si on n'est pas clair déjà sur ça, on a cette aspiration naturelle, mais en fait, on va peut-être complètement se planter, s'égarer. Okay. Donc là, on va pouvoir dire, ok, le vrai bonheur, c'est ça. Donc on va pouvoir après se dire comment faire pour obtenir ce vrai bonheur. Essayer de comprendre les mécanismes qui nous amènent à ce vrai bonheur. Une fois qu'on a compris les causes de ce vrai bonheur, qu'est-ce qu'on va faire? On va les créer, on va mettre en pratique ce qu'on a compris. Okay. Donc là, on récapitule, on aspire au bonheur, on comprend que la souffrance, c'est pas du bonheur, ça c'est clair, mais que la souffrance, il y a des causes qui ont été créées. Donc, on a l'opportunité de quoi faire ici maintenant, sur la base de cette compréhension. Changer notre attitude pour quoi faire? Donc déjà là, premier point, en fait, avant d'en arriver là où tu vas, Olivier, c'est de s'abstenir de créer les causes pour des expériences purement douloureuses. Est-ce que vous voulez souffrir? Le moins possible. Est-ce que vous êtes bien convaincu de ça? Donc, d'un point de vue bouddhiste, on dit que c'est une attitude extrêmement sage, extrêmement saine. Okay. Est-ce que la souffrance, vraiment, honnêtement, vous pensez que elle apparaît comme ça, sans vraiment cause précise, sans vraiment de manière complètement aléatoire? Est-ce que, en fait, vous pensez vraiment, sincèrement, après analyse, qu'il y a des choses qui apparaissent comme ça, de manière aléatoire? Est-ce que tout n'est pas produit en dépendance, donc d'un processus très précis, de cause et d'effet? Si tel est le cas, quelle est la cause de ces expériences de souffrance? Ah, le bouddhisme dit les actions passées négatives ou le karma négatif. Donc on analyse, ça semble être logique, qu'est-ce qu'on fait tout simplement? On s'abstient de générer ces actions. Ici et maintenant, on a l'opportunité de développer cette réflexion, peut-être d'en arriver aux conclusions qui sont celles, par exemple, du bouddhisme ou d'autres traditions, et de se dire, par exemple, ici et maintenant, j'ai un potentiel de choisir quelle attitude de vie je vais générer, pour quelle attitude de vie je vais opter, et par exemple, dire, je vais opter pour une attitude de vie éthique, morale, qui respecte les autres. D'accord? Et donc là, très rapidement, en fait, on en arrive un petit peu, par exemple, à dire on peut opter pour un tel choix. Mais voyez qu'en fait, très peu d'individus se posent sincèrement la question. Encore un nombre plus réduit d'individus voient les bienfaits de l'éthique. Encore un nombre encore plus réduit d'individus appliquent cette éthique. Énormément, donc, de problèmes dans notre société découlent uniquement de ce manque d'éthique. Et première réponse, donc là, qui est même pas bouddhiste, qui est partagée avec beaucoup, beaucoup de traditions religieuses et spirituelles, la réponse, si on veut que, par exemple, non, juste en restant à un niveau humain, cette planète, les futures générations, on souhaiterait qu'on aille vers quelque chose de mieux, économiquement, socialement, humainement, écologiquement, à quoi d'autre vous pensez? Rien. C'est déjà pas mal, hein, si on arrivait à tout ça. Quelle est la cause pour ça? Tout simplement, tout bêtement. C'est nous, c'est nos actions. Quel type d'action? Vertueuse, l'éthique. Vous souhaitez que la France aille vers quelque chose de beau? Donc là, Romain, il surenchérit le monde avant la France. J'ai dit allez voter, votez bien. Non, pas du tout. Ayez une attitude d'éthique. Soyez un exemple d'éthique. Bon, entre autres, il faut aller voter. Donc, comme je vous avais dit la dernière fois, votez pour la personne qui a la plus d'éthique véritable, sincère. Et là, Gisèle dit, il n'y en a pas. Comment on fait? Donc là, c'est la réponse véritable d'un point de vue bouddhiste pour que les choses aillent mieux. Moins il y aura d'éthique, plus notre société ira dans des comportements qui ne sont pas éthiques, plus il y aura de problèmes. La réponse, elle commence d'abord individuellement, par soi-même, opter par une éthique de vie. Et nous-mêmes, à ce moment-là, la pierre qu'on met à l'édifice de la société, c'est une cause pour des situations plus favorables. Madame, vous vouliez intervenir avec le micro? Attends. Mais c'est parce que pour il y a des gens qui suivent par internet ou plus tard enregistrement. Donc, alors le petit bouton au milieu. Si c'est orange, juste une petite pression.
Donc aujourd'hui, on se pose la question de l'éthique. Alors l'éthique, on a des valeurs que par exemple, nos parents nous ont transmises. On se dit qu'on va, comment dire, bon, c'est des valeurs nobles. Mais les gens qui appliquent souvent des valeurs nobles, ils ne vivent pas dans le bonheur.
Donc, en fait, voilà. Dans le processus de cause et d'effet, il y a tout simplement un décalage. Le résultat n'est plus pas simultané à la cause. Vous avez une graine. La graine, qu'est-ce que je prends comme graine? Une graine de blé. Le paysan, il a la cause, la graine de blé, pour son épi, pour sa récolte. Quand il met la graine de blé, il n'a pas le résultat automatiquement, simultanément. Il y a un processus de développement. Pareil au niveau de tout simplement nos expériences, il y a un décalage entre une cause et l'expérience. Et par exemple, il y a des gens qui vivent avec une éthique de vie, mais ils ne sont pas forcément malheureux. Le regard bouddhiste, c'est de dire pourquoi. Les expériences difficiles qu'ils font sont le résultat de causes passées qui correspondent à l'expérience qu'ils font, c'est-à-dire des attitudes qui n'étaient pas éthiques. Là, en vivant, par exemple, ceux qui vivent avec certaines difficultés, mais en optant pour une attitude éthique, là, ils créent les causes pour plus tard, dans le futur, obtenir le bonheur. Il y a des gens qui vivent dans l'éthique qui sont heureux aussi. Tout simplement parce qu'ils expérimentent le résultat de ce qu'ils ont créé dans le passé. On va voir aussi un autre facteur qui est extrêmement important au niveau du bonheur, c'est l'attitude mentale. Et on peut pratiquement ne rien avoir extérieurement et être extrêmement heureux juste de par notre attitude mentale, de par le regard qu'on porte sur notre vie. D'accord. Donc au niveau de l'éthique, petit rappel, parce que bon, il y a aussi des gens qui sont nouveaux, il y a l'éthique, là on est en train de parler de l'éthique bouddhiste. Okay, qui correspond de manière relativement proche à l'éthique qui est proposée par d'autres religions, d'autres spiritualités. Donc essentiellement, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas s'engager dans les conduites sexuelles. D'accord. Après, si on va un petit peu plus dans le détail, on parle de trois négativités au niveau du corps, donc on s'abstient de ces trois négativités. Donc là, on retrouve ne pas tuer, ne pas voler, ne pas s'engager dans des méconduites sexuelles. Ensuite, au niveau de la parole, ne pas mentir, ne pas dire des paroles divisives, des paroles méchantes, petite négativité qui est plus difficile à maintenir, propos futiles, parler pour rien dire, de sujets complètement inutiles. Okay. Donc, entre autres, il y a la presse People. Hein. Donc, parler de tout ça. Bon, ben, ça. Aussi, au niveau de l'esprit, donc des attitudes négatives qui sont source de mal-être pour nous-mêmes, donc dans le futur, la méchanceté, la convoitise et les vues fausses. Donc quand on parle d'attitude éthique d'un point de vue bouddhiste, essayez au maximum de s'abstenir de ces actions négatives. Pas parce que c'est un interdit, tout simplement parce que ces actions sont quoi? Une cause pour une expérience de souffrance future. Est-ce qu'on veut l'expérience future spécifique? Dans ce cas présent, douloureuse, non. Donc, on est intelligent, qu'est-ce qu'on fait? On ne crée pas les causes pour faire ces expériences. D'accord. Donc, non, je dis pas ça. Donc là, on a un potentiel incroyable. Regardez, par exemple, on va comparer notre situation à un animal, un félin. Quel félin vous aimez bien ? Chat. Chat. Le chat. Instinctivement, le chat, il voit une souris. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va jouer avec comment ? Et ? Il y en a qui ne jouent même pas avec. Hein. Là où je vis en Suisse, il y en a un, il ne fait pas dans le détail. Hein. Donc très souvent, instinctivement, parce que sont les félins, ils voient des proies, qu'est-ce qu'ils font ? Ils peuvent jouer avec, mais souvent, ils finissent par les niaquer, les tuer, et puis si ce sont des animaux sauvages, même, ils vont les manger. Même parfois, si c'est des animaux domestiques, ils les mangent. Est-ce que, en tant que félin, en tant que chat, en tant que lion, en tant que puma, en tant que ce que vous voulez, il a vraiment le choix de prendre du recul, de réfléchir, se dire, bon alors, est-ce que l'acte-là que je vais faire, parce qu'il a l'intention de le faire, est-ce que cette intention, cet acte, va avoir des répercussions ? Est-ce qu'il peut se poser la question ? Est-ce qu'il va avoir des conséquences ? Est-ce que cet acte est une cause pour quelque chose ? Est-ce qu'il a donc cette capacité de développer une compréhension de ce qu'il est, de ce qu'il est en train de faire ? Donc on se compare par rapport au félin. Est-ce que, donc il y a une différence fondamentale entre nous et lui au niveau de notre potentiel là, l'opportunité qu'on a donnée ? On a un potentiel, on a une opportunité de réflexion, on a une opportunité de compréhension, d'analyse. Okay. De là, en fait, on a une capacité d'entraînement pour mettre en application ce qu'on a compris. De par cet entraînement, on a une capacité de développer une maîtrise. Une maîtrise incroyable. Là, d'un point de vue bouddhiste, en tant qu'être humain avec certains intérêts, avec d'autres conditions extérieures, on a l'opportunité de développer la compréhension de ce qui pourra causer le bonheur passager, mais le bonheur de notre futur. Jusqu'à maintenant, si on regarde la globalité un petit peu de ce qu'est l'humain, en Occident, on parle de quoi ? De ce qui va pas. Mais non, quel est le regard général, on va dire, sur les 50 dernières années au niveau occidental, 60 dernières années, même 100 dernières années. On parle toujours du progrès. Ouais, on est très fier du progrès. Donc, il y a, d'une certaine manière, un développement, une compréhension qui entraîne une certaine maîtrise, et il y a du bon. Mais il y a, on n'a pas suffisamment de recul pour voir que, malheureusement, aussi dans notre développement, il y a aussi beaucoup de paramètres d'ignorance. Je vais prendre un exemple tout bête, un médicament. Il y a une maladie, il y a un problème au niveau physique, au niveau mental. Des gens qui cherchent, qui disent bon, c'est un problème. Et de par l'interdépendance qu'il y a, ils vont trouver en fait des molécules chimiques ou etc. qui vont avoir un effet par rapport à la maladie, par rapport au problème. Mais ils ont une certaine compréhension, mais qui est encore extrêmement limitée. Il y a encore en fait tout un côté qui est complètement inconnu, une méconnaissance. Un manque de connaissances. Okay. Et nos actions, en fait, comme elles sont développées sur ce manque de connaissances, donc même s'il y a une certaine connaissance, il y a tout un aspect, on ne sait absolument pas, et donc on produit le médicament, et après, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? On s'aperçoit donc qu'effectivement, il va pacifier le problème. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'il fait le médicament ? Les effets secondaires. Et des fois, il y en a, la liste, elle est longue. Avec le temps, on s'aperçoit qu'il y a tous les effets secondaires qui sont d'autres mots, en fait, qui apparaissent, qui sont peut-être moindres par rapport. Mais vous voyez, en fait, comment on a une compréhension encore extrêmement limitée. Donc, au niveau du progrès, oui, il y a des choses qui se sont améliorées. Mais malheureusement, en fait, dans notre développement, le développement s'est fait sur des attitudes intérieures tellement négatives qu'il y a des effets secondaires, entre guillemets, qui ne sont pas du tout secondaires, qui sont extrêmement importants et qui ont des conséquences énormes pour nous-mêmes et qui amènent énormément de problèmes, beaucoup plus de problèmes que d'avantages. regardez, les gens, ils sont très très mal. Il paraît que même, il y a monsieur Attali qui est passé aux informations, qui a fait des rapports un petit peu sur la situation économique française, et il dit que la situation économique française, la direction qu'elle prend, c'est vraiment pas génial. Hein, il avait fait une petite présentation, c'était, on va, pour le moins qu'on puisse dire, pas forcément très très optimiste. Okay. Donc en Europe, en ce moment, il y a de très fortes inquiétudes à un niveau économique. Mais qu'est-ce qu'a créé cette économie? C'est purement et simplement une fabrication mentale. À la base, qui pensait sur ce mode de fonctionnement, on va aller vers quelque chose de mieux. C'est une catastrophe. Tout simplement, c'est donc une fabrication mentale qui découle d'un manque de sagesse, un manque de compréhension. En fait, si on revient un petit peu à notre potentiel, l'opportunité qu'ils nous ont donnée, là je faisais une comparaison entre l'animal et l'homme, on s'aperçoit donc qu'on a une capacité de réflexion que l'animal n'a pas, de compréhension que l'animal n'a pas. Manque de peau, parfois cette capacité de compréhension, on va l'utiliser d'une manière incomplète, trop réduite, okay, donc on ne voit pas les conséquences un petit peu de notre choix. Mais d'un point de vue bouddhiste, en fait, quel est le potentiel par rapport à l'être humain, on va prendre donc l'exemple de l'être humain, avec les conditions qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de développement de notre compréhension, jusqu'où on peut aller? Donc Olivier, tu nous dis jusqu'à l'omniscience. Donc si on obtient l'état de Bouddha, on est omniscient. Qu'est-ce que c'est que l'omniscience, Camilla?
Elle rigole, elle se cache, elle répond pas.
Oui. Avec le micro.
L'omniscience, de pouvoir tout connaître.
Donc tout simplement, l'omniscience, de pouvoir tout connaître. Même d'un point de vue bouddhiste, ça va très très loin, puisque tout connaître, c'est connaître, tout connaître ce qui existe ici maintenant, mais c'est aussi tout connaître ce qui a existé. Et tout connaître ce qui va exister. Donc l'esprit, en fait, en essence, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un caractère de luminosité qui permet aux choses d'apparaître et la fonction de connaître, d'expérimenter la chose. Et d'un point de vue bouddhiste, ce potentiel de l'esprit de connaissance est illimité. Mais on a des modes de fonctionnement qui font quoi, Myriam? Qui limitent. Voilà. Qui limite tout simplement nos capacités. Quel est donc le mode de fonctionnement qui va en premier limiter tout simplement notre capacité de connaître, notre ignorance. Notre ignorance, quel type d'ignorance? Par exemple, il y a des choses qui sont, la plupart des choses même sans réfléchir, tout ce avec quoi on rentre en contact est composé d'une multitude de différents facteurs. Automatiquement, ça veut dire que cette chose, ces gens, ces expériences, comme elles sont composées, elles changent. Jean-Marc, vas-y, embraye sur ce qu'il vient de dire. Elles sont impermanentes, donc elles changent d'instant en instant. Ok, et ça peut être extrêmement, quand on dit d'instant en instant, l'école philosophique bouddhiste la plus aboutie dit un claquement de doigts, 365 moments dans ce claquement de doigts. Donc, à quelle vitesse les choses changent, cette école philosophique va dire, elle change à une vitesse de, donc, 365 fois par claquement de doigts. Si on avait une instrumentation extrêmement pointue, on pourrait peut-être même encore sous-diviser cette période en quelque chose de plus petit. Et si on avait une instrumentation extrêmement développée, on pourrait voir des changements s'opérer à, donc, cette vitesse. On a un mode de fonctionnement, de perception qui dit cette table, elle change pas. Elle m'apparaît comme étant vraiment solide, durable, etc. Ma perception de cette table est de dire oui, c'est vrai, elle est permanente, elle ne change pas d'instant en instant. Ce simple regard est ce qui me limite dans ma connaissance, ce qui déforme la réalité des choses, ce qui m'aveugle de plus en plus dans la perception que j'ai des choses. Donc, Gari, un autre mode de fonctionnement ignorant qui nous limite énormément dans notre compréhension, dans notre connaissance. Là, on a vu donc ce mode d'ignorance qui croit que les choses sont permanentes alors qu'elles sont impermanentes, puis l'autre. Donc, le mode de fonctionnement d'ignorance qui croit que les choses existent de manière indépendante, intrinsèque, en soi, alors qu'elles existent complètement de manière interdépendante, opposée. On reprend, regardez, est-ce qu'un animal, il a la possibilité de prendre du recul et de s'interroger? Comment est-ce que les choses existent? L'animal, comme nous, il va avoir cette impression qu'il y a des choses qui existent vraiment d'une manière solide, durable, d'une manière un peu, on va dire, permanente. Tout comme nous, on en a cette perception. À la différence de l'animal, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre du recul, analyser si notre manière naturelle de percevoir les choses correspond à la réalité. On peut découvrir qu'elles ne correspondent pas à la réalité. On peut entraîner notre esprit pour développer un nouveau regard qui correspond à la réalité. Donc là, parmi les nouveaux, vous pourriez me dire, ouais, mais bon, au bout du compte, pourquoi faire cet effort? Pourquoi pas rester dans l'ignorance? C'est que d'un point de vue bouddhiste, le problème fondamental de l'ignorance, c'est quoi? On l'a vu auparavant. C'est la cause même de toutes les souffrances. C'est ce qui nous bloque l'expérience, nous empêche d'avoir l'expérience d'un pur vrai bonheur. Okay? Donc là, pour récapituler, en fait, avec cette vie-là, de Monsieur Tout-le-Monde, donc beaucoup d'entre vous, vous êtes français, peut-être Gary était d'origine anglaise. D'origine quoi? Gallois. D'accord. Donc, Gary, d'origine Pays Galles. Origine humaine. Donc, pourquoi je parlais de nos origines? Donc, Monsieur Tout-le-Monde, en France, Pays de Galles. Donc, moi, en tant qu'immigré en Suisse. Tout simplement, on a le pouvoir, avec cette vie toute simple, toute bête, toute ordinaire, de faire des choses vraiment magnifiques. On a le potentiel, ici et maintenant, de se prendre en main et de créer les causes d'un bonheur futur. Dans toutes mes actions de la vie de tous les jours, dans tout ce que je fais, à chaque action, qu'est-ce que je peux faire? Créer les causes du bonheur pour le futur. Vous imaginez ou pas? Même si c'est qu'un bonheur temporaire. Dans toutes mes actions de la vie de tous les jours, de quand je me lève, etc., que je vais faire mes courses, cuisiner, faire le ménage, partager ma vie avec mon conjoint, ma conjointe, femme, mari, les enfants, etc. Qu'est-ce que je peux faire? M'abstenir de créer des causes de souffrance, même neutraliser des causes de souffrance qui ont déjà été générées, au contraire, créer des causes d'un bonheur, d'accord, temporaire, mais déjà. Beaucoup d'êtres n'ont pas cette capacité. Tous les animaux sont dans cette incapacité. Beaucoup d'êtres humains, en fait, même, ils n'ont pas d'intérêt, ils n'ont pas de désir de faire ça. Nous, ben, on s'interroge, donc on a cette capacité de prendre du recul, de réfléchir et de se dire dans quelle direction il faut que j'aille chercher le bonheur. Et on a la capacité de mettre en œuvre ce qu'on a compris, créer des causes, donc de moins de souffrance, plus de bonheur, même si c'est un bonheur temporaire. Ensuite, on voit, l'esprit a une capacité incroyable. Il y a des modes de fonctionnement intérieurs qui viennent limiter ces capacités, même qui viennent en fait faire que la souffrance est possible. En essence, rappelez-vous le premier module, quel est, Jean-Marc, les caractéristiques de l'esprit, et surtout l'esprit le plus subtil d'un point de vue bouddhiste? Là, clair lumière, et on va en parler parce que bon, au moment de la mort, ben, cet aspect de l'esprit surgit très clairement. L'esprit de clair lumière, quelles sont ses caractéristiques? Clair et connaissant, mais même, ça c'est l'esprit en général, l'esprit de clair lumière, non, pas omniscience, il a la capacité, le potentiel d'être omniscient, mais grande félicité. L'essence de ce que nous sommes au niveau de l'esprit, d'un point de vue bouddhiste, une expérience de pure luminosité, on peut dire une expérience parfaite. Je pense que nos amis chrétiens, Philippe, utiliseront le terme de expérience, les grands mystiques chrétiens, d'extase, de grande félicité. En essence, qu'est-ce que l'esprit ? Ça. Qu'est-ce qui se passe malheureusement pour nous ? Est-ce qu'on est capable d'avoir conscience de cet aspect plus profond, plus subtil de l'être, de l'esprit ? Non. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait ? Il y a un développement de fonctionnement de l'esprit un peu plus grossier, okay, qui sont complètement construits sur cette base, dépendent complètement de cette base. Okay, si la base n'est pas ici et maintenant présente, les aspects grossiers ne peuvent pas être. Malheureusement pour nous, quel est le mode de fonctionnement un peu plus grossier qui se développe ? L'ignorance. L'ignorance qui se méprend complètement sur comment j'existe, comment les choses existent. On a vu, tout simplement, je vais être dans un mode de fonctionnement, moi je. J'existe d'une manière véritable, indépendante, autonome. Naturellement, comment est-ce qu'on se perçoit ? Dès qu'on rencontre quelqu'un d'autre, comment est-ce qu'on le perçoit ? Automatiquement, il y a cette apparence, il existe d'une manière séparée de moi, indépendante de moi. Est-ce que ça correspond à la réalité ? Les personnes qui sont plutôt nouvelles, parce que bon, les anciens... Monsieur, comment est-ce qu'on existe ? D'une manière indépendante, autonome, moi-je ? Et en fait, en prenant un peu de recul, si on commence à réfléchir, on va voir jusqu'où va ce niveau d'interdépendance, de dépendance avec l'autre. Plus on va prendre du recul, plus on va s'apercevoir que cette interdépendance, elle est, on pourrait dire, illimitée. Qu'il n'y a en fait aucun aspect chez nous de véritable indépendance. Ce que nous sommes n'est que le résultat d'une dépendance multiple avec une infinité d'autres facteurs. Okay. Malheureusement pour nous, à l'heure actuelle, de cette essence immaculée, non problématique, quel est le fonctionnement que je génère d'une manière inconsciente même ? Ignorance, moi-je, cette saisie, cette croyance d'être un être à part entière, indépendante. Tous nos problèmes apparaissent à partir de ce moment-là. Okay. Là-dessus, je crée donc une dualité qui devient de plus en plus prononcée, moi, l'autre, moi, l'extérieur. Donc après, Philippe, comment est-ce qu'on perçoit les choses ? Les choses, elles vont nous apparaître d'une manière indépendante, et de par un concours de circonstances, il y a des expériences qui vont être plaisantes. T'as changé de voix, Philippe. Donc, effectivement, des expériences plaisantes, des expériences déplaisantes. Donc les choses vont nous apparaître comme agréables ou désagréables. Là-dessus, on va développer de l'attachement, de l'aversion, des modes de fonctionnement intérieurs qui sont toujours plus problématiques, toujours plus dualistes, toujours plus névrotiques, toujours plus en eux-mêmes état de mal-être. Okay ? Là, on revient au potentiel qu'on a, à l'opportunité qu'on a. C'est plus que le potentiel, parce que tout être a ce même potentiel. Mais là, on a l'opportunité de quoi faire ? D'examiner si, par exemple, ce que dit le bouddhisme correspond à la réalité ou pas. Est-ce que c'est vrai que on est dans un mode de fonctionnement d'ignorance qui transforme, qui se méprend sur comment les choses existent ? C'est vrai ou c'est pas vrai ? Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord ? Est-ce que vous êtes d'accord que parfois j'ai l'impression que vraiment les choses existent d'une manière permanente, durable, solide, alors que si je réfléchis un peu, elles changent d'instant en instant ? Vous êtes d'accord ou pas ? Donc vous êtes d'accord qu'on est dans un fonctionnement d'ignorance ? Là, on est moins fiers de nous, hein. Donc ensuite, je continue. Est-ce que vous êtes d'accord que très très souvent, on est dans ce mode de fonctionnement de croire qu'on a une existence indépendante ? Est-ce que vous êtes d'accord, si on prend un peu de recul, qu'on réfléchit, qu'on observe simplement ce que nous sommes, que nous existons à l'opposé, en interdépendance ? Oui ou non ? Donc, effectivement, on est dans ce mode de fonctionnement d'ignorance. Donc si on faisait un peu après le même examen, on pourrait s'apercevoir qu'effectivement, on est dans des modes de fonctionnement, d'attachement, d'aversion. On pourrait faire des examens, s'apercevoir que plus on est dans ces modes de fonctionnement, plus on est mal. Tout simplement, regardez, à cause de l'attachement et de l'aversion, qu'est-ce que ça veut dire attachement ? Quand on désire quelque chose qui est plaisant, on exagère les qualités de la chose, la personne en disant vraiment j'ai trouvé le bonheur, donc on est complètement à côté de la plaque. Mais est-ce qu'on est bien à ce moment-là ? On est dans une frustration, on est dans une insatisfaction. Parce que si on était vraiment bien, est-ce qu'on aurait besoin de cette chose-là? Ben non. Donc, un mal-être. Ok? L'aversion. Est-ce qu'on est vraiment bien quand on est dans l'aversion, dans la colère? Mal-être encore. Ok? La réponse vraiment profonde bouddhiste, c'est de dire, il y a une essence qui n'est pas perturbée, qui n'est pas souillée par ces modes de fonctionnement conflictuels, problématiques, de la nature de la souffrance. Comme l'essence n'est pas souillée, tout simplement, donc ça n'imprègne pas l'essence de ce que nous sommes, on peut comprendre l'essence de ce que nous sommes, on peut retourner à l'essence de ce que nous sommes, et on peut développer des attitudes diamétralement opposées à ces attitudes négatives, d'ignorance par exemple, d'attachement, d'aversion, d'orgueil, de jalousie, etc. Qu'est-ce qu'on a le potentiel de faire? Développer cette compréhension, mettre en pratique les outils qui vont nous permettre de pleinement vivre, d'une certaine manière, la compréhension qu'on a développée, et finalement devenir ça. Donc d'un point de vue bouddhiste, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Est-ce que le vrai pur bonheur est possible? Ouais. Le pur vrai bonheur, un état qui ne dégénérerait jamais. Est-ce que c'est possible, donc, est-ce qu'il existe? Oui. Est-ce que c'est possible de l'atteindre? Tout simplement. Si on en crée les causes, oui. Quelle est la cause du vrai pur bonheur? La sagesse. Donc la sagesse qu'on va développer en l'alliant à la concentration. Donc quand on parle de sagesse, d'un point de vue bouddhiste, la sagesse qui comprend l'interdépendance, la sagesse qui comprend l'impermanence, sont donc les véritables outils à utiliser pour développer vraiment un bonheur de plus en plus profond, de plus en plus durable. D'accord? Beaucoup de nos expériences de notre vie de tous les jours sont douloureuses. Pourquoi? Tout simplement parce que la manière dont on regarde la situation est un regard lié à la colère, l'aversion, à l'attachement, à l'ignorance. Si on n'était plus animé par ces attitudes, qu'est-ce qui se passerait automatiquement? Instantanément, là on pourrait le dire, donc là entre le développement de l'attitude et puis le résultat de l'expérience, là ce serait automatique quand vraiment on est capable de développer cette attitude. Si justement au lieu de vivre une expérience qui nous apparaît comme négative, douloureuse, très douloureuse, avec l'attachement, avec aversion, avec ignorance, si on la vivait avec sagesse, qu'est-ce qui se passerait automatiquement? Donc, même dans l'effet immédiat, Fafa, qu'est-ce qui va se passer? C'est on va être bien. On va être bien. Parce que qu'est-ce qui nous fait qu'on soit mal? C'est justement ce mode de fonctionnement intérieur. La souffrance extérieure n'est que le reflet de cette attitude intérieure. Quand vraiment il n'y a pas une sagesse intellectuelle, mais une sagesse vécue, complètement intégrée, il n'y a plus de souffrance. Regardez un exemple tout bête. On est dans un train en été. Donc vous allez me dire, ouais, t'as rien compris, là tu choisis pas bien ton exemple parce que on n'est pas en été, il fait pas chaud, mais donc dans nos chères théoses, je me mets à la page, pas comme Françoise, les systèmes climatiques des fois sont défaillants. Donc en plein été, quand il y a un incendie qui bloque la voie et que le train s'arrête et que c'est en plein cagnard et que la clim est tombée en panne, c'est le four. Et tout simplement, on regarde, il y a le comportement français de Sixte type. Donc le français, je précise, hein, Sixte, hein, c'est pas, je parle pas de vous, mais qu'est-ce qu'il fait? Il râle. Il dit, ah, et la SNCF, ah, toujours la même chose, en retard, et là, là, et là, là, et là, là. Qu'est-ce qui se passe automatiquement? Je renforce le mal-être intérieur. Je crée une très grande souffrance intérieure, en plus du petit désagrément extérieur. Surtout que la SNCF, elle est cool, et très vite, ils ont aperçu du truc, ils apportent des cartons d'eau, et puis, pour qu'on puisse se réhydrater. Parce que les Français, ils râlent tellement qu'après, ils vont porter plainte et tout. Donc autant leur apporter là, juste dans cette situation, si j'apprends à reconnaître vraiment l'aspect extrêmement destructeur pour moi-même, de mal-être qu'il engendre en moi-même, de ce mode de fonctionnement, comprendre que ce mode de fonctionnement, c'est un mode de fonctionnement auquel je me suis habitué, que j'ai entretenu encore et encore, mais qu'il n'est absolument pas irréversible, il peut être changé. tout simplement de cette compréhension, je peux me dire, ok, je veux vraiment commencer à changer ça. Je vais me donner les outils pour transformer ça. Donc des antidotes spécifiques pour chaque perturbation mentale ou un antidote universel pour détruire toutes les perturbations mentales, la sagesse. Là, il faut bien mesurer la portée de ce qu'est en train de dire l'enseignement du Bouddha. C'est en développant la sagesse, jusqu'à quel niveau je vais apporter une solution à la problématique complètement. Donc là, même pour en première réflexion, si on n'avait pas du tout été habitué un petit peu à cette recherche de compréhension de ce qu'est le bonheur, ce qu'est la souffrance, les causes de la souffrance, du bonheur, etc. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ? C'est qu'ici et maintenant, on a un potentiel intérieur, on a les conditions extérieures pour quoi faire, développer un état de sagesse intérieure qui va résoudre définitivement pour nous-mêmes tous les problèmes à tout jamais. Donc le résultat, il ne va pas se faire instantanément, ce développement de la sagesse. Mais on a les moyens ici et maintenant d'aller vers ça. On a les moyens ici et maintenant d'inverser complètement le processus. Donc on a ici et maintenant le moyen que les choses aillent beaucoup, beaucoup mieux. Donc on a vu déjà au niveau de nos actions, on a le potentiel, on a l'opportunité de choisir, de comprendre et de choisir, d'adopter un mode de vie cause de bonheur futur, de toujours moins de souffrance future. On a ici et maintenant l'opportunité de quoi faire, de créer les causes pour obtenir un pur vrai bonheur pour que plus jamais il y ait la moindre souffrance. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Olivier nous dit pour les autres. On a le potentiel, d'un point de vue bouddhiste, de développer des qualités infinies pour non seulement donc résoudre la problématique pour nous-mêmes, mais être une source d'inspiration, être, on pourrait dire presque l'être au niveau capacité, un développement parfait des capacités pour amener les autres à obtenir ce même résultat. Voilà le potentiel, voilà l'opportunité qui nous est donnée, ici et maintenant, avec la vie qu'on a, aussi ordinaire qu'elle puisse nous paraître. Donc on n'est pas un président de la République, on n'est pas un ministre, on n'est pas un maire, on n'est pas... Donc, il y a des gens qui ont des positions politiques ici. Mais avec notre vie, avec notre petit boulot ou notre grand boulot, ou peu importe, on a une capacité incroyable. On peut faire quelque chose de vraiment magique avec cette vie-ci. Pour récapituler, je peux créer les causes de mon bonheur futur. D'une certaine manière même, tout simplement, bonheur de la civilisation future. Moins de souffrance. Vous savez, les souffrances liées à la mort, à la maladie, aux guerres, etc. Donc c'est pas du truc du tout abstrait, là. Il faut bien se reconnecter avec notre vie de tous les jours. Je peux tout simplement aller, en fait, plus en profondeur dans la compréhension de ce que je suis, de ce qui m'anime, et voir qu'il y a toutes ces attitudes mentales, donc au niveau conscient mais inconscient, j'ai la capacité de les comprendre, de les percevoir, de les transformer pour développer des attitudes de sagesse, de bienveillance qui vont apporter une véritable réponse, un pur, véritable bonheur, me doter de toutes les qualités pour vraiment pouvoir aider les autres à aller vers ça. C'est extraordinaire, non ? Vous êtes déprimé ? Ah, je me sens mieux parce que je me suis dit, là, il va falloir que j'assure parce que la mort, là, ça va être mal. Donc, on est bien, là. Vous êtes content ? Oui ? Vous êtes content de ce que vous êtes ? Donc, on peut vraiment faire quelque chose d'incroyable. Est-ce que l'opportunité qu'on a, ici et maintenant, va toujours durer ? D'un point de vue bouddhiste, un animal, est-ce qu'il a un esprit ? Ouais. Donc, en essence, il a un esprit, et cet esprit a un potentiel illimité. Malheureusement, à un niveau grossier, par rapport à ce qu'il est, est-ce qu'il peut utiliser ce potentiel ? Il n'a pas les conditions pour activer de manière positive ce potentiel. De manière inconsciente, de manière, d'une certaine manière, il est un peu l'esclave de certains fonctionnements qui utilisent ce potentiel incroyable, mais à des fins plutôt négatives, donc cause de souffrance. Okay. D'une certaine manière, on aborde notre vie, on fait très gros, quatre, d'un point de vue bouddhiste, quatre grosses erreurs par rapport à la façon de percevoir ce qu'on est. La première, c'est il y a des choses qui sont impures et on les considère comme pures. Donc à un niveau grossier, tout simplement, physiquement, on pourrait avoir une attirance pour quelqu'un d'autre, okay, et en estimant que ce qu'est l'autre, au niveau physique, c'est pur. Donc là, je parle qu'à un niveau grossier, hein, je ne parle pas du niveau après plus intérieur, émotionnel, etc. Donc, est-ce que notre perception, elle est correcte? Est-ce que le corps d'un autre individu, homme ou femme, peu importe, un niveau donc très grossier, basique, c'est pur? Non? Pourquoi? Je vous titille un peu. Attends, prends le micro pour bien marquer l'esprit des autres. Et Jean-Marc, t'inquiète pas, j'arrive à la mort là. C'était. Hein, parce que, hein? Quand est-ce qu'on meurt? Eh bien, je vais te dire, j'ai failli pas être là. Hein. Eh, vous rigolez, mais. Bon, vas-y, donc, on revient.
On est fait de matière noble.
Très noble.
Oui,
on est fait d'os. Ça regarde, quoi. Bon, les os, ça va, ça, les os.
C'est pas très, disons, de...
Vas-y, il devient un peu plus...
De matière visqueuse, hein, qu'on pourrait...
Visqueuse, mais vas-y, plus en détail.
On est fait d'intestin, d'organes.
C'est déjà mieux,
l'intestin. Sorti du corps, comme on le voit, et pas très beau à voir.
Donc, mais parle crûment. N'aie pas peur, on ne te voit pas à la caméra. Donc, c'est pas Romain qui parle, c'est Germain qui parle. Hein. Donc, vous inquiétez pas.
Donc, on est fait d'organes comme estomac, poumon, cœur, rate, foie.
Ça, déjà, c'est moins cool, non?
Les yeux, la langue.
Ça vous paraît appétissant? Ça dépend si on les fait mijoter.
Donc, d'eau aussi, mais pas sous...
D'eau? Oui, pure?
Non.
Et viande? Contrex?
Non, de sang, de...
De sang?
Voilà.
De quoi d'autre? Urine?
Voilà, d'excréments.
Pus, excréments, voilà, etc. Voilà. Donc, on a ce regard un petit peu très... Très utopique, qui correspond pas trop à la réalité. Quand, par exemple, on développe du désir, un désir physique pour l'autre, sur quoi on se concentre?
Sur l'extérieur.
Sur un aspect extérieur plaisant. Ok. Et le fait de se concentrer sur cet aspect-là, on va exagérer. En fait, on va dire, ben, en fait, la personne, ce qu'elle est, c'est, au bout du compte, quand on est dans ce mode de fonctionnement, c'est que ça. Et d'une certaine manière, on va développer un regard au niveau donc physique, dire c'est complètement pur. Donc on c'est complètement pur et on obstrue, comment on dit, on cache complètement l'autre facette de dire bah oui, bah mais bon, il y a aussi tout le reste. Là, on le voit plus tout le reste. Et donc il y a ce mode de fonctionnement, quelque chose qui est impur, par exemple la plus grande partie de nos constituants n'est pas appétissant pour nous, n'est pas plaisant pour nous. Mais nous, en fait, on va complètement déformer cette réalité et dire, mais si, regarde, ben, y a l'aspect tout simplement, la forme physique, la texture de la peau, l'odeur après s'être lavé, parfumé, etc. Parce que si on oublie de prendre la douche pendant quelques jours, etc., c'est déjà moins cool. Okay. Donc, en fait, tout simplement, il y a quelque chose d'impur et on dit que c'est pur. Mais cette transformation intérieure ne correspond absolument pas à la réalité. Je pourrais aller à un niveau beaucoup plus subtil, qui n'a rien à voir avec la forme physique. Impur. Parfois, dans le bouddhisme, on parle de quelque chose contaminé. Contaminé par quoi? J'ai même pas eu le temps de choisir à qui j'allais poser la question. Olivier a dit l'ignorance. Donc en fait, il y a l'ignorance qui vient contaminer, déformer la réalité. De ce mode de fonctionnement d'ignorance, qu'est-ce qui se passe? On passe automatiquement dans un mode de fonctionnement lié à la souffrance. On pourrait dire dans un mode de fonctionnement impur. Okay? Mais en fait, nous, comment est-ce qu'on perçoit ce qu'on vit? On dit oui, c'est bien, c'est pas problématique. Si c'est problématique, si c'est impur, c'est contaminé par l'ignorance. D'accord ? Donc, premier niveau d'erreur. Deuxième niveau d'erreur. Tout simplement, on va considérer quelque chose qui est de la nature de la souffrance comme étant du bonheur. Okay ? Et là, c'est une erreur qui nous coûte très très cher, puisque automatiquement, on est dans un mode de fonctionnement qui nous bloque complètement la possibilité d'expérimenter un pur vrai bonheur. Il y a tous ces fonctionnements justement qui sont construits sur la base de l'ignorance, sont de la nature de la souffrance, mais on va croire que ces expériences agréables passagères sont de la nature du bonheur et on court après ça. Et automatiquement, on est dans ce fonctionnement et ça nous bloque l'obtention d'un pur vrai bonheur. Troisième très grosse erreur, et là, c'est vraiment ce qui va nous concerner, c'est le sujet du week-end. Il y a des choses qui sont impermanentes. Comment est-ce qu'on les conçoit ? Comme étant permanentes. Quatrième très grosse erreur, donc dans les textes bouddhistes, on dit que les choses existent sans soi, ou on parle du non-soi, et on va croire qu'elles existent en soi. Donc là, pour simplifier, par exemple, je vais croire que j'existe véritablement d'une manière indépendante, autonome, alors qu'en fait, je n'existe absolument pas de cette manière. Il n'y a aucun je qui existe de cette manière. Comment est-ce que j'existe ? Complètement en interdépendance. Okay ? Donc on revient. Troisième grosse erreur. On prend des choses qui sont impermanentes comme étant permanentes. C'est simple, non ? Les choses sont impermanentes, changent d'un champ en instant, elles évoluent, elles se transforment encore et encore. Donc intellectuellement, on peut prendre un peu de recul et s'apercevoir que ça change très très vite. Ça pose un problème à quelqu'un ou pas, au niveau compréhension ? Pas au niveau émotionnel, hein, mais juste au niveau compréhension. Ça pose un problème à quelqu'un ? Les choses changent, d'instant en instant, en instant, en instant. Manque de peau, donc on est dans un mode de fonctionnement complètement autre. Je cristallise et je dis non, la chose elle dure. À cause, on a vu des actions passées, il va y avoir vraiment cette apparence d'existence qui dure, agréable ou désagréable. Je développe de l'attachement pour ce qui est plaisant. C'est beau. Ah oui, c'est très très beau, c'est super beau, c'est source de pur bonheur. Et je le veux pour moi. Donc je suis frustré parce que je ne l'ai pas là maintenant et je veux quelque chose. Je suis dans un état d'insatisfaction, de névrose intérieure, de mal-être intérieur. Quelque chose de déplaisant ? Ah, il est complètement 100% pas bon du tout. Ce truc il est là et je ne le veux pas. Est-ce que je suis bien ? Non, je suis très mal. Okay, je suis dans ce mode de fonctionnement. Encore et encore et encore et encore. Regardez combien de fois vous avez souffert parce que vous avez été séparé de quelqu'un, d'une expérience, d'une situation que vous aimiez. Ça représente quoi ? Beaucoup ou pas beaucoup de souffrance ? Beaucoup de souffrance ? Combien de fois vous avez été mal parce que vous étiez confronté à une situation, en fait, que vous n'aimiez pas, dans laquelle vous aviez développé donc une aversion ? Combien de fois ? Pas beaucoup, apparemment. Là, vous ne réagissez pas. C'est cool, là, bah, je vous envie. Hein. Super. Hein. Tout le temps ? Donc, si on prend les deux, attachement et aversion, le nombre de souffrances qui ont découlé de cet attachement et cette souffrance, un bon paquet. Un très très gros paquet. On regarde, qu'est-ce qui a permis le développement de cet attachement spécifique et de cette aversion spécifique ? L'ignorance, quel type d'ignorance ? Juste qui croyait, qui regardait, qui disait « les choses durent ». On développe l'opposé, la sagesse qui comprend, qui réalise, qui vit, ou du compte, l'impermanence. Qu'est-ce qui va se passer automatiquement ? L'ignorance donc spécifique là qui cristallisait, qui disait ça dure, disparaît automatiquement. Tous les niveaux d'attachement et d'aversion qui étaient construits sur cet niveau d'ignorance, qu'est-ce qu'ils font ? Ils disparaissent automatiquement. Le mal-être, la souffrance qui était générée en relation avec ce mode de fonctionnement, qu'est-ce qu'il fait ? Il disparaît juste par ce simple changement de regard. Comment est-ce que j'existe ? Comment est-ce que les choses existent ? Regardez le nombre de souffrances qui sont pacifiées et d'une certaine manière, le degré de bien-être, de bonheur intérieur qui va apparaître. C'est pas du délire ? Pourquoi on l'a pas fait plus tôt ? Donc, en fait, c'est pas facile. On va voir. On va voir. Là, je vous prends au mot. Comment est-ce que vous appelez ? Valérie. Valérie. Donc, je vous prends au mot, Valérie, c'est pas facile. Est-ce que quelqu'un a eu du mal à développer la compréhension intellectuelle de dire, oui, les choses changent ? Par exemple, oui, je change. J'ai un corps et un esprit. Ce corps, il change d'instant en instant. Tout simplement, des réactions toutes bêtes, hein, biologiques, chimiques. Je respire, donc je change au niveau de l'air que j'inspire, dioxyde de carbone que j'expire, etc. Transpiration, tout donc à l'intérieur, le sang qui circule, les poumons qui fonctionnent, le cœur qui bat, etc. Tous ces changements, on peut en prendre conscience. C'est difficile. Alors voilà. L'esprit. Philippe, là, il rigole. Je dis, eh ben voilà, le tour est joué. Ça y est, je peux repartir en Suisse. Ok. L'esprit. Est-ce que l'esprit, il change ? Ben regardez, là, vous essayez peut-être de suivre les raisonnements. Plus ou moins, il fait chaud, donc la concentration est difficile. Mais vous essayez de suivre un petit peu tout ce qu'on est en train de parler, là, etc. Vous êtes en train de réfléchir. Il y a un changement permanent. Au niveau des sens visuel, auditif, olfactif, gustatif, tactile, etc. Il y a beaucoup de perceptions différentes. Vous entendez différentes choses, vous sentez différentes choses, etc. Vous ressentez différentes choses, oui ou non ? Changement perpétuel, encore et encore et encore. Donc là, on est en train de prendre conscience de l'impermanence de l'esprit. Ouais ? Facile ou pas facile ? Facile, fastoche, et ben voilà. La fleur, là. La fleur. Donc on a une apparence, bon, ben, apparemment, elle bouge pas. Si elle bougeait, là, je m'inquiéterais, d'ailleurs. Mais je peux réfléchir et me dire, cette fleur-là, la particulière-là, celle-là, là. Zoome dessus, José, réveille-toi. Hop, je rigole. Non, non, je rigole. Cette fleur-là, en fait, on réfléchit un peu, elle est constituée de quoi ? De particules qui sont donc des molécules, des atomes, des protons, des électrons, des neutrons, des quarks. Vous êtes d'accord ? Ouais ? Heureusement. Sinon, de toutes les façons, il est midi, donc on va bientôt s'arrêter. Donc, elle change d'instant en instant. On a cette apparence qu'elle est figée. Mais donc la science a eu une observation juste, okay, à un niveau subtil, et à ce niveau subtil, il y a une évolution qui va se traduire à un niveau grossier, que ben, la fleur avant c'était un bouton qui s'est ouvert, qui s'est développé, et là parce qu'elle est coupée, ben, petit à petit elle commence à, plutôt sur une pente descendante, elle va commencer un peu à se flétrir, etc. etc. On le voit ça, non ? Ouais ? On le comprend ? C'est pas difficile ? Valérie, c'est difficile ? Donc, la solution, tout simplement, réfléchir. Facile, on l'a fait. Ensuite, reproduire la réflexion de temps en temps. Pas trop dur. Réfléchir, on va dire, une fois par jour sur ça. Est-ce que ça vous paraît difficile ? Réfléchir, prendre conscience de l'impermanence du corps, de l'esprit, de ce qui nous entoure, de nos expériences, tout, une fois par jour. Difficile ou pas difficile ? Faisable. Hein ? Tout simplement, en faisant ça, on s'habitue avec cette nouvelle manière de penser, de regarder les choses. À force de s'habituer, est-ce que ça vous pose un problème ? Je ne vais pas dire respirer, mais de marcher. Sauf hein, si vous êtes cassé quelque chose, ou... mais marcher, de manger. Ça vous pose un problème de manger ? C'est facile. C'est fastoche, non ? Pourquoi ? Parce que je vais vous dire un truc. Ça n'a pas toujours été aussi facile. Hein. Il y a même un moment, c'était super dur. Quand on était tout petit, on n'y arrivait pas. On a appris. On a appris, petit à petit, encore et encore, et c'est devenu super fastoche. Il faut qu'on fasse exactement la même chose. La réflexion, elle est facile. Donc voilà. Même dès le départ, c'est même pas difficile. Ensuite, c'est revenir à cette réflexion, à cette compréhension, et petit à petit, avec le temps, c'est intégrer cette réflexion. Le problème, c'est un des points qu'on va couvrir plus tard, c'est quoi ? C'est combien de temps je pense à être conscient de l'impermanence ? Donc une fois, ah ben je suis allé écouter quelqu'un et puis il a parlé de l'impermanence. Donc j'en ai pris conscience. Ah, puis là je me suis aperçu que avant, en gros, sauf vraiment à un niveau très grossier, quand j'étais confronté par exemple à la mort d'un proche que j'aimais beaucoup, là ça m'a fait un choc, etc. Mais j'étais juste conscient de cet aspect très grossier de l'impermanence. Mais de l'impermanence subtile, naturelle de toute chose, j'en avais jamais eu. Vraiment, j'avais jamais porté l'attention dessus. Là, tout simplement, voilà, j'étais d'une certaine manière introduit à cette réalité, à une réalité qui me constitue complètement. Okay ? Après, ça va être se dire, est-ce qu'il est important, en fait, d'essayer de revenir à cette compréhension ? Donc, par rapport à ce qu'on a dit, est-ce que ça vous paraît important de développer une compréhension de l'impermanence ? Moi, je veux dire non, j'ai d'autres choses à faire. Hein. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je suis venu en France, parce que là, en Suisse, il y a encore de la neige. Donc, si je vais dans certains endroits, je vais pouvoir encore aller skier, etc. Donc, c'est important ou c'est pas important ? Le ski, oui, bien sûr, c'est important. Donc, est-ce que c'est important de revenir à cette réflexion sur l'impermanence ? Pourquoi ? Eh ? Sinon, on fait rien. Si, je peux aller skier. Je fais rien d'important, même pire encore, si je fais pas ça, qu'est-ce que ça veut dire que je fais ? En résultat, oui, je vais souffrir. Ça veut dire que si je fais pas ça, ben je demeure dans ce mode de fonctionnement d'ignorance qui cristallise, qui dit que les choses durent, que je dure, que tout dure, etc. Donc je développe l'attachement par rapport à ce qui est plaisant, l'aversion par rapport à ce qui est plaisant, l'orgueil, la jalousie, etc. Je me pose à agir. Tout ça n'est tout simplement que le fonctionnement habituel dans lequel j'ai été et qui cause une chose, de la souffrance. Quand je dis la souffrance, c'est de la souffrance pure et dure ou des expériences agréables, mais qui sont pas du vrai pur bonheur. Là, si je vois l'importance de cette réflexion, ça va me pousser, cette compréhension, à vouloir revenir à cette réflexion, à cette compréhension, à cette intégration de plus en plus profonde, cette chose-là, en moi. Et là, je vais vraiment créer un nouveau regard intérieur qui va vraiment être source de très très grand bonheur. Je vous dis, on n'a même pas, là je l'ai dit comme ça en passant, mais on ne peut même pas se faire une image du degré de bien-être, de bonheur extrêmement stable qu'on va pouvoir générer si on développe cette sagesse qui comprend, qui réalise, qui vit pleinement l'impermanence. Toutes nos souffrances grossières auxquelles nous sommes confrontés dans notre vie disparaissent. Ça vaut pas le coup de faire un petit effort ? Petit effort de simplement prendre conscience de l'impermanence. Là, on va s'arrêter et en revenant, ce sera pas le meilleur moment, mais bon, comme on dirait les bouddhistes, c'est notre karma. Sauf si une mouche me pique et puis que je change un peu tout, mais on va tout simplement essayer de réfléchir à l'impermanence de ce qu'on est, vraiment notre vie, etc. On va juste prendre conscience de cette impermanence. On va voir que, parce que peut-être on n'a pas encore vraiment l'habitude de développer cette conscience et de maintenir cette conscience, ça va pas être facile, on va se mettre à penser à autre chose, mais simplement on va donc s'entraîner à développer cette compréhension, à essayer de ressentir un petit peu cette compréhension, essayer petit à petit de stabiliser ça. Et tout à l'heure, donc on méditera peut-être pendant 10 minutes. Ok, donc selon, ben il y en a qui vont arriver plus ou moins, mais c'est pas la mer à boire de se poser, de réfléchir à 10 minutes sur l'impermanence. C'est complètement du domaine de réalisable. Si on fait par exemple ça chaque jour, ça va devenir de plus en plus facile. Ça va nous imprégner de plus en plus. En plus, ce qu'on peut faire, c'est de temps en temps simplement de lui dire, ben oui, les choses sont impermanentes. Ben oui. Et à chaque fois qu'on fait ça, on est en train de casser ce cercle d'inertie très forte qui disent les choses durent, les choses durent, les choses durent. Et au bout d'un moment, tout simplement, dès qu'il y a quelque chose qui va naître, par exemple, vous êtes en couple et puis un beau jour, vous apprenez que vous allez attendre un enfant. Donc en fait, non, vous attendez un enfant. Automatiquement, quel regard, si on s'est entraîné, va s'installer ? Le regard de sagesse, c'est impermanent, les choses évoluent. Donc pas d'attachement, pas d'aversion, par rapport à ça. Regardez le degré de souffrance qu'il y a lié à un enfant, notre enfant. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'on n'a pas fait attention. Dès le départ, il y avait un mécanisme qui donc était pour nous naturel, on n'avait besoin de fournir aucun effort pour qu'il soit là. Les choses durent. Et donc, je développe de l'attachement et de l'aversion. Et je m'engage dans les actions, etc. Et à cause tout simplement de cette ignorance, cet attachement, cette aversion, énormément de souffrance. Par cette prise de conscience, par cette intégration, petit à petit, ces choses-là vont disparaître. Ça marche ? Les choses étant impermanentes, tout évolue, se transforme, et on va faire la pause. Et donc à 1h, le déjeuner, on se retrouve à 3h, peut-être pas. Parce que, 3h, normalement, c'est l'heure de ma sieste. Donc. Bon appétit à tout le monde.